Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Merci de vous être connectés avec nous ce matin. Le bon côté de ces webcasts est que vous n'avez pas eu à braver les intempéries et les bouchons pour vous joindre à nous. Et nous sommes vraiment ravis de vous accueillir ce matin. Nous allons parler donc des actes de la directive détachement, dont la transposition en droit français a commencé de produire ses effets le 30 juillet de cette année. Et le nombre de personnes connectées ce matin nous montre que le sujet est particulièrement d'actualité. À titre de présentation, je suis donc Olivier Dussara, avocat associé de PwC Société d'avocats. Je conduis nos équipes françaises en charge de la mobilité internationale au sens large, c'est-à-dire comprenant le droit du travail, de la sécurité sociale, l'immigration, la paye et la fiscalité. Notre webcast sera animé ce matin par Arsvel Le Fur, qui est avocat directeur en droit social de notre département, et Fanny Gérard, qui est avocat et manager en droit social aussi dans notre département. Fanny et Arsvel seront questionnées par Marie-Claire Delpin, qui est directrice dans notre département et qui conduit aussi nos activités de mobilité internationale. Ce matin, notre propos sera centré sur les aspects droit du travail de la mobilité qui sont directement impactés par la directive. Nous n'ignorons pas les autres aspects de la mobilité internationale, mais nous avons choisi de donner un focus particulier aujourd'hui sur la thématique du droit du travail. De même, nous n'évoquerons ce matin que les transferts intragroupes et nous n'aborderons pas les secteurs du BTP et des transports qui ont leurs propres règles en la matière. Une dernière information avant de laisser la parole à Marie-Claire. N'hésitez pas à nous poser vos questions directement dans le chat qui apparaît à droite de votre écran, sous la rubrique « Poser une question aux intervenants ». Nous tâcherons de vous répondre au fur et à mesure de ce live ou à la fin, pendant le temps dédié pour les questions. Et je laisse donc maintenant la parole à Marie-Claire. Je vous souhaite un bon webcast.
Merci Olivier. Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose qu'on démarre tout de suite avec la première question qui sera donc pour Arsvel. Arsvel, est-ce que pour commencer, tu peux déjà nous dire ce que l'on entend par salarié détaché?
Merci Marie-Claire. Bonjour à toutes et à tous. Par salarié détaché, on vise une situation dans laquelle un employeur étranger envoie l'un de ses salariés en mission temporaire en France, dans le cadre d'une mobilité intragroupe par exemple, à savoir une mise à disposition à titre également d'exemple. Cela signifie que pendant toute la mission, pardon, le contrat de travail est maintenu avec l'employeur étranger. Aucun contrat de travail n'est conclu avec une entité en France. Et à l'issue de la mission, le salarié a vocation à rentrer, puisqu'il s'agit d'une mission par définition temporaire. L'absence de contrat de travail avec une entité française appelle trois remarques. Tout d'abord, cela exclut les salariés qui entretiennent un lien de subordination avec l'entité française pour réaliser leur mission, mais n'exclut pas, bien entendu, un lien opérationnel fort, mais exclut un lien de subordination. Deuxième remarque, dans la plupart des cas, cela signifie que les salariés détachés n'ont pas vocation à diriger une équipe française ou à représenter l'entreprise française auprès des tiers. Et enfin, cela signifie que les salariés détachés n'ont pas vocation, ne doivent pas être intégrés dans la paye de la structure française, même si les coûts sont refacturés à celle-ci et ainsi supportés par la France. J'ajouterais qu'il ne faut pas confondre le détachement droit du travail avec le détachement en matière de sécurité sociale, qui, pour rappel, consiste en un maintien à un régime étranger de sécurité sociale, par exemple allemand, tout en étant en activité en France et exonéré grâce à un accord international du paiement des cotisations de sécurité sociale en France. C'est donc ce qu'on appelle le détachement en matière de sécurité sociale. S'il faut être détaché en droit du travail pour l'être également en matière de sécurité sociale, être détaché en droit du travail n'implique pas nécessairement de l'être en matière de sécurité sociale. Autrement dit, on peut très bien être détaché en matière du droit du travail et cotiser en France.
Merci Arsvel. Alors maintenant que nous sommes clairs sur le statut de salarié détaché, est-ce que tu peux nous expliquer les conséquences qu'entraîne ce statut?
Oui, bien sûr, Marie-Claire. Être détaché en France, elle se voit appliquer un nombre limité de dispositions du droit du travail français, communément appelé noyau dur, même si le contrat de travail du salarié n'est pas soumis au droit français. Quand on parle de noyau dur, on vise essentiellement les dispositions concernant la sécurité et la santé, la durée du travail, les règles concernant les congés payés et la rémunération minimale. Ces dispositions peuvent être soit de source législative, donc prévues par la loi française, je pourrais prendre à titre d'exemple la rémunération minimale, le SMIC, qui est de l'ordre de 1 540 € par mois aujourd'hui. Il s'agit également concernant la durée du travail des 35 heures et des règles concernant les heures sup et leur valorisation entre 25 et 50% par exemple. Ces dispositions peuvent être aussi d'origine conventionnelle, c'est-à-dire lorsqu'il y a une convention collective étendue qui s'applique, c'est-à-dire dont les dispositions sont rendues obligatoires par un arrêté ministériel. Et donc, une nouvelle fois, si je prends l'exemple du salaire minimum conventionnel, ça va dépendre de la classification. Et prenons à titre d'exemple la situation, la convention collective Syntec, on est de l'ordre entre, je dirais, 2 950 € et 5 500 € par mois pour les ingénieurs et cadres minimum. Être détaché, afin de vérifier si ces conditions sont satisfaites, le respect notamment des dispositions du noyau dur, c'est faire donc l'objet d'une procédure singulière impliquant le respect d'un certain formalisme qui va permettre de mettre l'inspection du travail en situation d'effectuer des vérifications. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. J'ajouterai enfin, cela concerne tout le monde. Ce que je veux dire par là, c'est que le régime du détachement concerne également les salariés de nationalité française dès lors qu'ils sont détachés par un employeur étranger en France. Et tout le monde, parce que cet employeur étranger peut être établi en Europe, certes, mais également partout dans le monde, en Afrique, en Asie ou en Amérique, par exemple.
Mais alors, Arzbaël, pourquoi est-ce que l'on parle aujourd'hui de détachement alors que ce statut existe déjà depuis bien longtemps ?
Pourquoi aujourd'hui ? C'est parce qu'il y a quelques nouveautés, mais tu as raison, ce n'est pas nouveau. Ça fait plusieurs décennies qu'une directive européenne a été transposée en droit français, mais en réalité, c'est revenu sur le devant de la scène en raison de l'actualité économique et politique, avec dans le viseur la lutte contre la fraude au détachement, ou ce qui s'exprime également sous l'angle lutte contre le dumping social, ce qui a donné lieu à des réformes, une succession de réformes, et dont la dernière en date concerne la directive du 28 juin 2018, qui a été transposée, comme l'a dit tout à l'heure Olivier, en droit français, avec une date d'effet au 30 juillet dernier. Deux points méritent l'attention, même si leur portée n'est pas aussi importante qu'elle puisse paraître. Premier point, c'est qu'il est prévu que l'intégralité du droit français, à quelques exceptions près, non des moindres néanmoins, à savoir les dispositions concernant la conclusion des contrats de travail, les dispositions concernant la rupture des contrats de travail, les dispositions concernant la non-concurrence ou encore la retraite d'entreprise, à l'exception de ces dispositions afférentes à ces matières, tout droit français s'applique pour les détachements dits de longue durée. Nous y reviendrons tout à l'heure quant à la notion de longue durée. Mais en revanche, les dispositions supplémentaires en plus du noyau dur sont en réalité susceptibles de s'appliquer de manière très limitée. Donc, on y reviendra, mais lorsqu'on dit que tout le droit français s'applique à l'exception de ce que je viens de vous indiquer, l'impact est très limité. Retenez dans les grandes lignes que ça concerne essentiellement le noyau dur plus quelques dispositions complémentaires. Second point d'attention, il est prévu d'appliquer le principe d'égalité de traitement aux salariés détachés, de manière à ce qu'ils soient traités comme les salariés français concernant les dispositions relevant du noyau dur, rémunération minimale, congés payés, durée du travail, santé, sécurité essentiellement. Et ça, cela s'illustre le plus souvent, on a pu le voir dans la presse, sous le principe à travail égal, salaire égal.
Merci Arzbaël. Alors, peut-être avant de revenir plus en détail sur cette réforme, je vais me tourner vers Fanny. Fanny, est-ce que tu peux nous dresser, s'il te plaît, le panorama des obligations et notamment nous indiquer quelles sont les obligations à satisfaire lorsqu'une société étrangère envoie du personnel en France ou lorsqu'une société française accueille du personnel étranger en France ?
Tout à fait, Marie-Claire. Bonjour à toutes et à tous. Alors, ces obligations sont de plusieurs natures. Prenons le cas d'un employeur établi, par exemple, en Pologne, qui détacherait un ingénieur au sein d'une société du même groupe en France. Alors, tout d'abord, l'employeur polonais doit signaler qu'il détache un salarié en France en saisissant une déclaration préalable de détachement sur le site gouvernemental CIPSI. C'est une formalité qui incombe donc à la société employeur, à la société polonaise. Mais la société d'accueil en France a également des obligations de son côté. Elle doit ainsi travailler en collaboration avec l'employeur établi en Pologne et exiger l'accusé réception de cette déclaration préalable de détachement. Si la société établie en Pologne ne lui communique pas l'accusé réception, la société française doit alors se substituer à l'employeur en renseignant une déclaration subsidiaire sur le site CIPSI que je viens de vous indiquer. Cet accusé réception de déclaration doit d'ailleurs être annexé au registre unique du personnel de la société française, dans notre exemple, et être rendu accessible aux membres du conseil du comité social et économique. Si la déclaration n'est pas saisie, des amendes administratives sont prévues, allant jusqu'à 4 000 euros par salarié. Le respect du formalisme est donc d'autant plus important que les contrôles sont renforcés sur le sujet. Et il n'y a pas de seuil déclencheur de cette obligation, c'est-à-dire qu'une obligation, une déclaration, pardon, doit être saisie même pour un jour de mission dès lors que les conditions du détachement que vous avez exposé à Arzuel sont remplies. Quant à la durée maximale du détachement, il n'y en a pas tant que celui-ci reste temporaire. En revanche, pour éviter les erreurs de saisie, la durée maximale de saisie sur l'outil CIPSI en ligne est de 5 ans contre 6 mois il y a très très peu de temps. Donc, si la mission se poursuit au-delà de cette période, il faudra simplement ressaisir une déclaration le moment venu. Autre exigence en matière de détachement, l'employeur polonais, dans notre exemple, doit désigner un représentant en France qui a pour mission de fluidifier les échanges entre l'inspection du travail d'un côté et la société employeur établie en Pologne, dans notre exemple. Ce représentant, qui peut être une personne physique ou une personne morale, c'est-à-dire une société, doit être établi en France et par les Français pour pouvoir assumer ce rôle de facilitation des échanges. Je vous le disais à l'instant, c'est un rôle de facilitateur qui n'a pas pour effet d'engager la responsabilité du représentant désigné. En pratique, ce sont très souvent les sociétés d'accueil qui endossent ce rôle. Et à noter sur ce point que l'inspection du travail, en cas de contrôle, exige parfois un document qui atteste de l'accord du représentant désigné pour endosser ce rôle. Il est donc recommandé de se prémunir et d'établir un document à cet effet avant le début du détachement. Toujours dans un rôle de facilitation du déroulé du contrôle, puisque c'est cela dont il s'agit, un certain nombre de documents liés au détachement doit pouvoir être présentés sans délai par l'employeur ou le représentant à l'inspection du travail en cas de contrôle. Je pense notamment à la lettre de détachement, à l'accusé réception de la déclaration préalable dont on a parlé un petit peu plus tôt, des documents immigration, des documents attestant de la sécurité sociale applicable, deux bulletins de paie de forme française, deux feuilles de temps. Alors, ces documents, ce sont ceux qui vont permettre à l'inspection du travail de s'assurer du respect des obligations de protection du salarié détaché dans les domaines principaux du noyau dur qu'Arzuel a mentionné au début de cette webcast. L'employeur étranger, donc notre employeur polonais dans notre exemple, doit donc soigneusement préparer le détachement de son salarié en réfléchissant en amont à la durée du travail qui s'applique, en déterminant la convention collective applicable pour s'assurer du respect du salaire minimum en fonction de la classification à retenir. Et en cela, la connaissance des règles locales de la société d'accueil française est souvent d'un grand soutien pour l'employeur étranger. Point important, la société d'accueil en France doit s'assurer que son partenaire, qui est l'employeur étranger, respecte les règles du noyau dur qu'Arzuel a cité. Si la société d'accueil en France constate un manquement, par exemple, sur le salaire versé, elle doit alors enjoindre l'employeur de faire cesser ces manquements et signaler ces mêmes manquements à l'inspection du travail si les mises en garde restent sans effet. Donc, c'est un devoir de vigilance qui est important car il permet à la société d'accueil, en principe, de se dégager de sa responsabilité dans des cas de ce type. Dans le cas contraire, donc si elle ne le fait pas, des sanctions sont même prévues qui vont d'amendes administratives à une solidarité financière dans certains cas, lorsque le paiement du salaire ou le salaire minimum est en jeu. Alors, bien entendu, en cas de contrôle, vous vous en doutez, l'administration ne se contente pas d'un examen formel des règles. Elle va également vérifier si, en pratique, les règles de protection du salarié détaché sont respectées, telles que prévues par la loi ou la convention collective étendue. Et les salariés peuvent d'ailleurs être interrogés dans le cadre de ces contrôles. Enfin, et je conclurai par cela, d'autres obligations s'appliquent aux salariés, aux sociétés. Je prie de m'excuser aux sociétés d'accueil en France. Je pense notamment à l'obligation de renseigner le bilan social pour les sociétés qui sont soumises et d'informer et consulter le comité social et économique en cas de mise à disposition des salariés.
Merci Fanny pour ce panorama très complet. Juste une petite précision, est-ce que tu peux nous expliquer comment déterminer la convention collective pour les salariés détachés ?
Oui, bien sûr. Alors, en principe, lorsqu'on pense à déterminer une convention collective, on pense tout de suite à l'activité principale de l'entreprise. Mais pour les salariés détachés, qui ne forment pas en réalité une communauté de travail, ce critère n'est pas applicable. Donc, la convention collective pour les salariés détachés, elle doit être déterminée en fonction de l'activité exercée par le salarié détaché en France. C'est ce critère qui va permettre de s'assurer que la convention collective et les garanties qu'elle prévoit sont bien en cohérence avec les tâches effectuées par le salarié détaché. Donc, seules les dispositions étendues des conventions collectives s'appliquent, c'est-à-dire celles qui sont rendues obligatoires par un arrêté d'extension à toutes les personnes ou entreprises entrant dans son champ. Alors, en pratique, il est tout à fait possible qu'aucune convention collective soit applicable après examen. Par exemple, pour un directeur financier, il peut néanmoins être souhaitable d'appliquer volontairement une convention collective pour les seules dispositions du noyau dur dont on parlait tout à l'heure. Par exemple, pour permettre plus de souplesse et un aménagement de la durée du travail. On aura peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Dans ce cas, en pratique, souvent, c'est la convention collective de la société d'accueil qui est retenue.
D'accord, merci, c'est clair. Peut-être autre précision par rapport à ce que tu disais précédemment, tu parlais de bulletins de paye de forme française. Est-ce qu'il faut systématiquement faire des bulletins de paye français alors que les salariés sont détachés ?
Ah oui et non, effectivement, point important. Alors, tout dépend de ce qu'on entend par bulletin de paie et cette exigence, elle est d'ailleurs à articuler avec le statut sécurité sociale et fiscale du salarié. Il y a deux façons de satisfaire l'obligation de bulletin de paie de forme française qui s'applique aux salariés détachés dès lors qu'ils sont en France pour un mois ou plus. Et donc, ces deux façons de satisfaire cette obligation seront fonction de l'obligation ou non de cotiser en France. Premier cas, si aucune cotisation française n'est applicable, et c'est sans doute le cas que tu visais, Marie-Claire. Alors, dans ce cas-là, pour tous les détachements d'un mois ou plus, il faut effectivement établir un document qui a en tout point l'apparence d'un bulletin de paie de forme française, par exemple sous un format de type Excel, en langue française, avec des montants reportés en euros. Et donc ça, c'est le cas des salariés qui sont détachés au regard de la sécurité sociale depuis un état de l'espace économique européen ou de la Suisse, qui ont le certificat de détachement qui va bien. Et donc ces personnes-là, ces détachés-là, ne sont pas redevables de cotisations sociales en France, d'où cette nécessité d'avoir un bulletin de forme française qui reporte des informations comme la durée du travail, le taux horaire, la convention collective si celle-ci a été déterminée et s'il y en a une qui est applicable, les majorations pour heures supplémentaires. Pour cette population, un petit focus sur l'aspect fiscal. Je rappelle simplement que les salariés détachés qui ont leur résidence fiscale en France sont soumis à la procédure donc, du passereau. Alors, jusqu'à présent, certaines sociétés avaient fait le choix d'utiliser ce qu'on appelait le véhicule 89 dans la DSN des sociétés d'accueil établies en France, qui accueillaient donc ces salariés, pour les besoins du précompte de l'impôt. C'est une tolérance qui était aujourd'hui applicable et qui, en priori, cessera au 31 décembre de cette année. Donc, pour ces salariés qui n'ont pas de sécurité sociale en France, qui ne sont pas assujettis à la sécurité sociale en France, il faudra que la société étrangère, donc l'employeur étranger, s'immatricule auprès du Centre national des firmes étrangères pour pouvoir mettre en place la bonne procédure, donc la procédure passereau. Et il faudra bien entendu faire un bulletin de paie de forme française, comme on vient de le voir. Deuxième type de population, ce sont les salariés détachés pour lesquels des cotisations sont dues en France. Soit parce qu'il n'y a pas de certificat de détachement, du pays d'origine parce que ça n'est pas possible ou parce que celui-ci n'a pas été sollicité, soit parce qu'il y a un certificat de détachement obtenu en application d'une convention bilatérale, mais d'un pays hors de l'Union européenne ou de l'espace économique européen. Et donc, pour cette population-là, des cotisations résiduelles sont dues en France, c'est-à-dire les cotisations chômage. Alors, pour cette population-là, qui doit à tout le moins cotiser à sur une des branches de la sécurité sociale ou l'intégralité, dans ce cas-là, un véritable bulletin de paie doit être établi, couplé avec une DSN, une déclaration sociale nominative, pour permettre à l'employeur étranger de déclarer et de payer les cotisations qui sont dues en France en s'immatriculant au Centre national des firmes étrangères ou l'URSSAF d'Alsace pour ceux qui connaissent cette URSSAF. Et donc, ça permettra d'obtenir un numéro de CIRE, un numéro URSSAF propre à l'employeur étranger. Et si le salarié est résident fiscal de France pendant le détachement, ce bulletin de paie permettra bien entendu également le précompte du prélèvement à la source ou du PAF. Donc, comme vous pouvez le constater, en aucun cas, dans les deux populations que j'ai citées, le salarié détaché doit être reporté sur la paie de la société d'accueil parce que précisément, il ne fait pas partie de cette société d'accueil.
Merci Fanny pour ces précisions. Pour en revenir peut-être maintenant à la directive, je vais me tourner vers Arzuel. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les nouveautés de la directive et notamment, tu faisais référence précédemment à la notion de détaché de longue durée. De quoi s'agit-il ?
Merci Marie-Claire. Le détachement de longue durée est un détachement qui excède une période de 12 mois. Et il peut durer donc plus de 12 mois sans pour autant qu'il y ait une date limite, une période limite. La seule exigence, c'est que ce soit temporaire, comme je disais tout à l'heure, donc qu'il y ait un retour dans le pays d'envoi. Donc ça peut être 12 mois, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, par exemple. Pour ces détachements, qui est de dit de longue durée parce qu'ils excèdent 12 mois, à partir du 13e mois, s'applique l'intégralité du droit français, à l'exception des exceptions que je vous ai mentionnées tout à l'heure. Attention, pour calculer, faire une computation des délais, c'est-à-dire apprécier cette durée de 12 mois, on va prendre en compte une succession de détachements si ces détachements ont lieu auprès du même poste en France. Pour les détachements en cours à la date d'effet de la directive, donc au 30 juillet dernier, la durée de 12 mois est appréciée en tenant compte des périodes de détachement déjà accomplies à cette date. Et donc, il y a détachement de courte durée lorsque ce détachement n'excède pas 12 mois. Et dans ces cas-là, seules les dispositions relevant du noyau dur ont vocation à s'appliquer donc pendant ces 12 premiers mois. Il est néanmoins toujours possible de demander une extension de jusqu'à 6 mois de ces détachements de courte durée et donc une application pendant 6 mois supplémentaires des seules dispositions du noyau dur. À cet effet, il y a bien entendu un formalisme à respecter, toujours en utilisant l'interface gouvernementale SIPSI, en cochant une case appropriée et en communiquant une motivation, une explication qui motive cette demande d'extension. Il ne s'agit pas d'une demande d'autorisation, donc ne vous attendez pas à ce que l'administration vous dise oui ou non pour cette extension de 6 mois, c'est une notification qui convient de justifier. Deux cas de figure peuvent, dans cette situation, se présenter. Soit dès le début, vous savez que le détachement va excéder 12 mois. Dans ces cas-là, ce qu'on vous recommande, c'est de cocher cette case tout immédiatement, dès la CIPSI, déclaration préalable de détachement initiale. En revanche, autre cas de figure, si a priori le détachement n'est pas prévu pour 12 mois, à ce moment-là, vous n'avez pas vocation à cocher cette case. Si en cours de mission, vous souhaitez prolonger ce détachement, à ce moment-là, ce sera l'opportunité, l'occasion de cocher cette case afin d'obtenir cette extension de jusqu'à 6 mois si vous le souhaitez. Je voudrais souligner un dernier point sur ce sujet, c'est qu'il est désormais obligatoire de mettre à jour la CIPSI, la déclaration préalable de détachement, si les dates changent. Alors là, vous l'avez vu, je parlais d'extension, donc si on souhaite prolonger les dates, mais c'est également le cas si vous souhaitez raccourcir le détachement. À ce moment-là, il est indispensable de renseigner, de mettre à jour la CIPSI. À défaut de cette mise à jour, vous vous exposez à des sanctions administratives jusqu'à 4 000 euros, comme l'indiquait tout à l'heure Fanny.
Alors, concrètement, Arzaël, quel pan du droit français s'applique pour les détachements de longue durée?
Alors, c'est une question très importante qui a fait beaucoup parler, mais qui n'est peut-être pas si dramatique que cela ou si impressionnante que cela. Alors, il y a tout d'abord un certain nombre d'exceptions que j'ai rappelées tout à l'heure. Donc, les exceptions concernent les dispositions concernant la conclusion des contrats de travail, par exemple les motifs de recours à un CDD, ceci ne s'applique pas. Les dispositions concernant la rupture des contrats de travail ou la modification économique de ces contrats de travail ne s'appliquent pas. Il s'agit des dispositions concernant la non-concurrence et les retraites d'entreprise lorsque la question peut se poser. Il s'agit des dispositions relevant, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, soit de la loi, soit d'une convention collective nationale étendue, qui en réalité ont vocation à s'appliquer sans qu'un contrat de travail avec une entreprise française soit nécessaire, puisque, je vous le rappelle, par définition, un salarié détaché depuis l'étranger vers la France n'a pas vocation et ne doit pas avoir un contrat de travail avec une entité française. Et le fait qu'il s'agit de l'ensemble des dispositions qui ne nécessitent pas un contrat de travail avec une société française réduit drastiquement le périmètre d'application en réalité du droit du travail français pour les détachements de longue durée. Il s'agit essentiellement en réalité des dispositions relevant du noyau dur qui de toute façon sont applicables dès le premier jour et de quelques règles supplémentaires qui confinent ou qui sont liées notamment aux élections professionnelles ou aux congés spéciaux tels que les congés de formation ou les congés de soutien familial. Autrement dit, fondamentalement et à quelques nuances près, le périmètre d'application du droit français du travail est le même qu'il s'agit d'un détachement de longue ou de courte durée. Prenons un exemple pour illustrer mon propos, d'un salarié roumain détaché par son employeur en France pour 3 ans auprès d'une entreprise française du même groupe dans le cadre d'une mise à disposition. Partons également de l'hypothèse qu'en raison de l'activité exercée par ce salarié, la convention collective de la société d'accueil française s'applique. Et à l'issue de ce détachement, prenons la situation où il serait licencié. Il devra, dans cette situation, tout au long de son détachement, donc pas seulement pendant les 12 premiers mois, mais tout au long de son détachement, bénéficier d'une rémunération au moins égale à la rémunération minimale prévue par la convention collective, compte tenu de ses qualifications et de son ancienneté, y compris les gratifications ou les accessoires de salaire prévus par cette convention collective, par exemple, une prime de panier ou une prime de 13e mois. Il pourra également bénéficier de 5 semaines de congés payés ou plus, si cette convention collective le prévoit. Il sera soumis aux 35 heures, aux heures supplémentaires ou, le cas échéant, à d'autres dispositifs. Nous aurons l'occasion d'en reparler tout à l'heure. À compter cette fois-ci du 13e mois de détachement, il pourra participer aux élections professionnelles, à l'image de ce qui se fait déjà pour les mises à disposition dans un contexte franco-français. Il pourra également, le cas échéant, bénéficier de congés spéciaux que j'ai mentionnés tout à l'heure. En revanche, il ne bénéficiera pas des avantages accordés aux seuls salariés de l'entreprise d'accueil, puisque, une nouvelle fois, par définition, ces salariés ne sont pas salariés de la structure d'accueil. Donc, ça signifie qu'il ne pourra pas bénéficier des grilles dédiées en termes de rémunération aux salariés de la société d'accueil, aux primes éventuellement spécifiques, spéciales, aux politiques de rémunération variable, aux congés d'ancienneté, aux retraites d'entreprise, à la participation, à l'intéressement, bref, à tout droit, prestation attribué aux salariés de la société d'accueil au seul titre ou pour la seule raison qu'ils ont un contrat de travail avec la société française. Enfin, lors de la rupture du contrat de travail de ce salarié détaché, il ne pourra pas non plus revendiquer les dispositions françaises en matière de licenciement et de rupture, qu'il s'agisse aussi bien de la procédure que de l'indemnité conventionnelle ou légale de licenciement.
Alors, autre apport de la directive, tu faisais référence précédemment au principe à travail égal, salaire égal. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça signifie concrètement?
Oui, bien sûr. Ça signifie, Simplement, j'allais dire que les salariés détachés doivent bénéficier des mêmes éléments de rémunération que ceux accordés aux salariés de la même branche d'activité, c'est-à-dire relevant de la même convention collective, à classification égale. Il est donc primordial et déterminant d'identifier cette classification et le coefficient prévu par la convention collective éventuellement applicable. N'étant pas salariés de la société d'accueil, ils ne peuvent donc pas être comparés aux salariés de cette société, sauf si la rémunération des salariés de cette société correspond en tout point à ce qui est prévu par la convention collective applicable, en ce qui concerne à tout le moins ces dispositions étendues.
D'accord, merci Arzuel. Mais alors en pratique, comment on fait pour savoir si le salarié bénéficie du bon niveau de salaire ?
Il faut avoir une approche en deux temps, je dirais. D'abord, déterminer quel est le salaire qui doit servir de référence, de référentiel ou de comparaison. Et ensuite, recenser les éléments de rémunération qu'il convient de mettre dans ce bon salaire. Donc, déterminer dans un premier temps le salaire de comparaison. Quand l'absence de convention collective applicable, il s'agit du SMIC. Donc là, il n'y a pas trop de difficultés. Avec ou en présence d'une convention collective, il convient de déterminer la classification du salarié et de vérifier la rémunération minimale afférente à cette classification, y compris les primes conventionnelles et accessoires de salaire prévues par la convention collective, comme j'ai eu l'occasion de le rappeler tout à l'heure. Une fois qu'on a cet élément de comparaison, on va comparer le salaire versé ou la rémunération attribuée au salarié détaché. Que met-on dans cette rémunération ? Ce qui recommande, disons, retenez que ce sont tous les éléments de rémunération, c'est-à-dire qui ont vocation à compenser l'activité professionnelle ou la rétribuer, qu'il s'agisse aussi bien des avantages en espèces qu'en nature. Bien sûr, le salaire, bien une prime éventuellement de mobilité. Et je dirais même qu'on peut prendre par comparaison, par analogie, les règles applicables en matière de sécurité sociale en France. Peu importe que le salarié détaché, comme a pu l'évoquer tout à l'heure Fanny, soit ou non assujetti au régime français de sécurité sociale. Retenez que tout ce qui a vocation à entrer dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale en France a vocation à être retenu en matière de rémunération pour les salariés détachés. Et à contrario, tout ce qui a vocation à être exclu de cette assiette de cotisation, par exemple les frais professionnels ou les remboursements de frais professionnels, n'a pas vocation à entrer dans la rémunération à retenir pour les salariés détachés. Prenons un bref exemple d'un salarié espagnol avec une rémunération de base de 1100 euros. Il perçoit une prime, je dirais, de détachement de l'ordre de 200 euros et quelques centaines d'euros, 500 ou 700 euros par exemple, de per diem. Ces per diem ont vocation, c'est une somme versée où on dit au salarié le plus souvent qu'avec cette somme, il pourra couvrir un certain nombre de frais. Attention, dans ces cas-là, il est très difficile de distinguer dans ces per diem, dans cette somme versée, je dirais, aveuglément, ce qui relève de la rémunération de ce qui relève d'un remboursement ou d'une prise en charge des frais professionnels. Et là, la nouvelle directive nous apporte un certain nombre de précisions en venant nous dire que quand les employeurs étrangers sont dans l'incapacité de procéder à cette ventilation, en exemple de du per diem, à ce moment-là, c'est l'intégralité de la somme qu'il convient de considérer comme un frais professionnel, donc il faudra bien sûr la verser puisqu'on considère que ça couvre des frais professionnels. En revanche, cette somme ne pourra pas être prise en compte comme un élément de rémunération à comparer à la rémunération minimale applicable.
Merci Arzuel. Alors, je vais me retourner maintenant vers Fanny. Fanny, est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont tes recommandations sur la durée du travail ? Est-ce qu'un salarié détaché est automatiquement soumis aux 35 heures ?
Oui, alors la durée de 35 heures hebdomadaires de travail à laquelle tu fais mention, Marie-Claire, c'est effectivement la durée standard de travail qui s'applique pour tout salarié, donc y compris les salariés détachés. Mais il y a bien entendu des aménagements et exceptions qui peuvent être prévues. Alors, point important, on ne peut pas se fonder sur des organisations de travail prévues par des accords d'entreprise de la société d'accueil. Puisque, comme on le rappelait tout à l'heure, les salariés détachés n'entrent pas dans leur champ d'application. Ce ne sont pas des salariés de l'entreprise d'accueil. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est tirer profit d'une convention collective, notamment des dispositions, par exemple, sur le forfait annuel en heure ou le forfait annuel en jour, sous réserve que la personne remplisse, bien entendu, les conditions. Par exemple, pour les forfaits annuels en jour, je pense à la nécessité de disposer d'une autonomie suffisante dans l'organisation de son temps de travail pour que le salarié détaché soit au forfait jour. Un point sur les modalités d'organisation du travail que je viens de citer, puisqu'elles nécessitent l'accord du salarié détaché. Donc, le support de la convention collective ne suffit pas. Il faut absolument recueillir le consentement du salarié détaché dans l'avenant de détachement ou bien tout simplement rédiger un avenant qui soit spécifiquement dédié à cette question de la durée du travail.
D'accord, merci Fanny. Alors, notre pays a traversé une période inédite ces derniers mois, avec notamment une mise en confinement généralisée. Et dans ce cadre, bon nombre de salariés se sont retrouvés à télétravailler depuis la France, alors même qu'ils étaient normalement affectés dans un autre État. De manière générale, le recours au télétravail est une tendance de fond qui se généralise. Est-ce que tu pourrais nous dire si ces personnes sont concernées par le régime du détachement ?
Alors non, Marie-Claire, en fait, ils ne sont pas concernés par ce qu'on vient de voir, tout simplement parce qu'ils ne sont pas envoyés en France à la demande de leur employeur étranger. Ce sont soit des personnes qui ont travaillé en France en raison du confinement et donc de contraintes qui échappent à tout le monde, soit ce sont des salariés qui, pour des raisons personnelles, pour convenance personnelle, souhaitent désormais télétravailler depuis la France pour leur employeur étranger, comme la situation de recours au télétravail se généralise, comme tu l'as rappelé. Donc, mais dans tous les cas, les deux types de personnes que je viens de citer ne satisfont pas à la définition stricte du détachement. En revanche, d'autres questions pourraient se poser pour ces télétravailleurs permanents en France. Et on pourrait notamment s'interroger sur la nécessité d'appliquer le droit français, le droit du travail français, à ces personnes dont le lieu de travail permanent deviendrait la France. Même si on ne peut pas forcément approfondir cette question pendant cette webcast.
D'accord. Et par analogie, si une personne est détachée et mise à disposition par une société étrangère auprès d'une société française, mais qu'en raison de la crise sanitaire, elle ne peut pas venir travailler en France et donc elle exerce son travail depuis l'étranger, est-ce que dans ces cas-là, elle est considérée comme un salarié détaché ?
C'est moi qui vais répondre à cette question, Marie-Claire. On pourrait donc parler de détachement virtuel, mais là, en l'espèce, virtuel n'aura pas vocation, on n'aura pas les effets éventuellement escomptés, dans la mesure où en l'absence d'activité sur le territoire français, donc il y a une question de territorialité, un principe de territorialité qui doit s'appliquer, nous ne sommes pas dans le champ d'application du détachement, donc les règles qu'on vient d'évoquer, le régime qu'on vient d'évoquer jusqu'à présent, ne s'appliquent pas à ces personnes.
Et si cette personne vient en France de temps en temps ?
Alors dans ces cas-là, effectivement, la donne pourrait changer puisqu'il y aurait une présence sur le territoire français, donc le critère de territorialité serait respecté. Là, de deux choses l'une, soit il s'agit de quelque chose de pérenne qui s'inscrit dans le temps et on n'est pas dans la situation de détachement puisque, encore une fois, par définition, le détachement a vocation à être temporaire. En revanche, si cela s'inscrit dans une mission bien identifiée dans le temps, oui, le détachement ou le régime du détachement s'appliquerait à ces personnes. Alors là, une question néanmoins pourrait se poser, est-ce qu'on doit de manière systématique, à chaque fois que la personne vient une semaine par exemple et repart, revient un mois et repart, faire une déclaration préalable de détachement ? Il y a deux approches possibles. La première, bien entendu, c'est en faire une à chaque fois. Ça veut dire une gestion particulière des dossiers, un suivi très strict. C'est pas interdit, ça ne vous sera pas rapproché. Nous, ce qu'on vous recommande dans une telle situation, à partir du moment où la durée du début et de fin de cette mission de détachement avec des intervalles, des présences intermédiaires en France, dans une telle situation, nous vous recommandons de faire une déclaration préalable de détachement sur l'intégralité de la période, même si pendant cette période, il peut arriver que cette personne retourne dans son pays d'envoi.
Merci beaucoup, Arzael. Je suis consciente du temps. Merci beaucoup pour vos interventions. Je vais maintenant repasser la parole à Olivier pour conclure ce webcast.
Oui, merci beaucoup à nos intervenants. Nous arrivons donc au terme de ce webcast et espérons qu'il vous aura apporté les perspectives pratiques sur les conséquences de la directive. Je retire de cette intervention que les obligations pesant sur les employeurs d'origine et d'accueil des salariés détachés sont larges, mais aussi que pour une grande part d'entre elles, ces obligations existaient avant même la directive. Et que généralement, la gestion des obligations reposera bien souvent sur une bonne information des employeurs d'origine et la mise en place de process relativement simples permettant un bon suivi et un bon respect de l'ensemble des obligations. Il est à noter que, contrairement à d'autres pays comme le Royaume-Uni, la France ne s'est pas encore dotée de brigades ou de procédures spécifiques destinées à contrôler le bon respect des obligations liées au détachement de personnel. Mais avec la situation du marché du travail qui risque de se tendre, il est probable que les détachements seront de plus en plus finement examinés dans le futur, d'où l'importance d'être vraiment à jour du respect de ces obligations. D'autant qu'un facteur à ne pas négliger, c'est que l'actualité récente a montré que l'accueil, et j'insiste sur le mot accueil de travailleurs détachés, est devenu dans l'opinion publique et les médias un recours aux travailleurs détachés, avec toutes les connotations que cela peut comporter, généralement peu de connotations positives, notamment dans l'opinion publique. Sur ces mots, nous allons vous laisser continuer votre journée, mais je souhaiterais vous demander, si vous le voulez bien, rester en ligne encore une minute pour pouvoir évaluer cette webcast, et nous vous encourageons à le faire. Merci encore d'avoir participé. Nous avons reçu un certain nombre de questions, mais nous sommes souhaitant respecter le temps. Nous nous efforcerons de revenir vers chacun avec les questions qui ont été posées, car nous souhaitons respecter le timing qui nous avait été donné. Et enfin, je terminerai en vous disant que vous recevrez très bientôt donc un lien vers le podcast de cette intervention que vous pourrez reconsulter si vous le souhaitez. Et bien entendu, n'hésitez pas à contacter vos contacts habituels chez PwC si jamais vous aviez des questions. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup de vous être joint à nous et je vous souhaite une bonne journée.